Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Jean Bosco Mouemeri. Il est analyste indépendant de la géopolitique des Grands Lacs africains. Il est membre du comité de crise de la société civile congolaise. Bonjour Jean Bosco Mouemeri.
Bonjour Monsieur Guimanté.
En ligne, Grace Chaco, il est journaliste à la RTGA FM mettant de Kinshasa. Elle est aussi coordonnatrice de l'ONG Leadership de la Femme, des médias et conférencière. Bonjour Madame Grace Chaco. Madame Grace Chaco, est-ce que vous êtes là? Voilà, apparemment elle n'est pas encore là. Et en ligne aussi depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Bonjour Christophe Châtelot.
Oui, bonjour Guy.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Grace Chaco. Elle est journaliste à la RTGA FM, émettant de Kinshasa. Elle est aussi coordonnatrice de l'ONG Leadership de la Femme, des médias et conférencière. Jean Bosco Mouemeri, il est analyste indépendant de la géopolitique de Grand Lac africain. Il est membre du comité de crise de la société civile congolaise. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir l'arrivée de la délégation du département d'État américain dans la région pour renforcer les efforts de paix en RDC et promouvoir les investissements du secteur privé dans la région. Est-ce une aubaine pour la diplomatie congolaise? La multiplication des initiatives diplomatiques destinées à rétablir la paix dans l'est de la RDC annonce-t-elle une sortie de crise prochaine ou ne sont-elles que des manœuvres dilatoires utilisées par le Rwanda? Et enfin, gouvernement d'Union nationale en RDC, une solution pour la stabilité sécuritaire ou un énième partage du pouvoir? Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la persistance de l'insécurité liée à l'activisme des miliciens Mobondo dans la partie ouest de la RDC. En effet, un groupe de miliciens Mobondo lourdement armés a mené une incursion meurtrière mardi 1er avril à Kabiyala, dans les territoires de Bagata, province d'Ikwilu. Le bilan provisoire de cette incursion fait état des 13 civils tués par ces insurgés, a rapporté le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'opération Ngemba, menée par la 11e région militaire Grand Bandundu. Alertés, les forces armées de la RDC ont rapidement réagi en menant une opération d'intervention neutralisant ainsi 5 assaillants et ont récupéré 2 armes de guerre ainsi qu'un lot de machettes. Lors de cet affrontement, un soldat congolais a été mortellement touché par balle, ajoute le capitaine Mwalushai. Pour l'armée, ces nouvelles violences témoignent de la détermination des miliciens Mobondo à poursuivre leurs exactions malgré les initiatives du gouvernement congolais en faveur de la restauration de la paix dans les grands Bandundu. Madame Grace Chaco, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, cher Guy.
Bonjour, on n'a pas eu l'occasion de se saluer au début de l'émission.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Merci. Et comment vous comprenez la persistance de l'activisme des miliciens Mobondo en dépit de tout ce qui a été fait jusque-là par le gouvernement, par les ONG, même par les églises, hein, pour, n'est-ce pas, amener ces miliciens à renoncer à la violence?
Mais écoutez, je vais commencer par là où vous avez chuté, en dépit plutôt de tout ce qui a été fait, mais qu'est-ce qui a été fait concrètement? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Parce que là, finalement, on est en train d'aller sur une repression de l'armée, et même quand il y a l'armée, les miliciens Mobondo n'arrêtent pas. À ma connaissance, je pense avoir vu dernièrement, je pense que c'était plutôt avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Peter Sagadi, qui avait semblé réunir pour signer un accord de paix. Et finalement, je ne crois pas que cet accord de paix avait été publié. Et je pense que les ministres se succèdent au ministère de l'Intérieur. Mais moi, je pense qu'ici, le vrai problème n'est pas dit ou n'est pas fait. Ils revendiquent quoi exactement? Et finalement, les Mobondo aujourd'hui sont muets en plusieurs milices. Ce n'est plus une seule milice qu'on peut contrôler. Il y a des sous-groupes et qui appartiennent à certains petits chefs qui sont nés. Et dans cette optique, ça devient très difficile de les contrer. Moi, je pense que l'approche que le gouvernement doit continuer à avoir, au-delà finalement de donner des offensives, de faire des offensives armées, il faudrait continuer à parler avec. Parce que je pense que jusque-là, je n'en ai plus vu. À moins qu'à ma connaissance, je l'ai oublié. Je n'ai plus vu encore une approche du gouvernement central ou provincial pour parler avec ces miliciens. Et là, ça devient carrément des bandits qui veulent aller s'enrichir, qui veulent carrément déloger des populations. Parce que c'est ce qui se dit, qu'ils veulent déloger des populations. J'aimerais simplement paraphraser, si vous me permettez, de prendre cette réflexion qui a été faite à l'absurde comme ça, qu'il y a quelques années, on entendait par-ci par-là qu'il y avait des personnes qui sont venues avec des vaches, qui se sont installées dans le Grand Bandundu. Les notables du Grand Bandundu en ont parlé et tout le monde avait trouvé que c'était normal. Et certaines personnes aujourd'hui se disent que ces personnes qui sont venues avec des vaches à l'époque sont justement en train de vouloir prendre des terres, et sont en train de déloger les populations locales. Alors, il faudrait qu'ici, au-delà des offensives de l'armée, que le gouvernement continue de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il les appelle, il les écoute, et que finalement, il trouve une solution durable.
On sait que, voilà. Je rappelle, grâce à Chaco, que le gouvernement les a écoutés plusieurs fois. Et une fois même ici à Kinshasa, une délégation des Mobondo était arrivée ici et ils avaient signé un acte d'engagement devant les chefs de l'État et les ministres de l'Intérieur. Et donc, on les a déjà écoutés, mais on ne sait pas pourquoi ils n'arrivent toujours pas à renoncer à la violence. Jean Bosco Mouemeri, le phénomène Mobondo, au départ, un conflit entre les Teke et les Yaka. Aujourd'hui, les Mobondo, comme l'a dit Gas Chaco, est devenu une nébuleuse. Ces miliciens se sont radicalisés. Est-ce que tout n'est-il pas aussi lié au fait que les problèmes de fond, donc les conflits fonciers entre Teke et Yaka, n'est toujours pas résolu?
Bon, ces problèmes doivent être circonscrits, bien sûr. On peut parler des phénomènes de pauvreté, on peut parler des effets liés à la gouvernance, mais est-il que celui qui combat, qui déstabilise la RDC, aille une longueur d'avance? Il ne faut pas lire ce phénomène Mobondo comme un phénomène à part. Il faut mettre ce phénomène dans l'ensemble de tous ces faits qui sont éclatés sur le sol congolais. Quand on regarde ce qui se passe dans les hauts plateaux au sud Kivu, quand on regarde ce qui se passe dans les Nord Katanga, des petites cellules insoumises ou, qui défient l'État. Quand on regarde au niveau du Nord Kivu et de l'Ituri, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de petits groupes qui étaient déjà entraînés, préparés pour jouer un rôle selon un tampon qui est géré quelque part. j'ai toujours même pensé que mites étaient les grandes opérations qui ont été menées par rapport au Kuluna dans la ville de Kinshasa. Mites étaient ces opérations là-bas. Aujourd'hui, Kinshasa serait ingouvernable. Donc, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Ce qui s'est fait même à moitié à Kinshasa devait être fait partout ailleurs. C'est-à-dire, l'État devait comprendre que c'est un problème structurel et un problème de manipulation avec des acteurs internes et des acteurs externes au pays. Et que c'est pour une déstabilisation et une déstructuration de l'État. Et donc, je viens de suivre ce que dit Madame
Grâce Chaco.
Oui, quand elle parle déjà des phénomènes de transhumance, des gens qui n'ont pas été bien gérés, qui sont venus, ils sont installés de manière vraiment non encadrée, et aujourd'hui ils deviennent peut-être un problème pour les communautés locales. Ça peut être une mauvaise perception, mais dès lors qu'il y a cette perception, il devait y avoir une action du gouvernement. Et donc, et que ce soit dans la communication, et que ce soit dans les thèmes de renseignement, que ce soit dans la question de gouvernance, il y a des choses qui ne sont pas faites. Et c'est à ce niveau et que vraiment j'interpelle le gouvernement. Je dis, il ne faut pas faire les choses à moitié. Et il ne faut pas les faire sans vraiment circonscrire tous les tableaux de manière globale. Il ne faut pas courir derrière de petites choses sans voir comment ça vient, d'où ça vient et qui sont derrière au niveau interne et au niveau externe.
Merci Christophe Châtelot. Au fil des ans, ces miliciens se sont renforcés au point d'être capables, n'est-ce pas, de prendre des initiatives pour attaquer les positions des FRDC. Et ce qui étonne ici, c'est n'est-ce pas, leur capacité de résistance. Comment vous comprenez cela, Christophe Châtelot?
Comment je le comprends, je ne sais pas exactement. Moi, j'en étais resté dans cette histoire-là, aux tentatives de médiation qui étaient menées notamment par une organisation privée, mais qui avait réussi à rassembler autour de la même table à Kinshasa au mois de septembre et des représentants des autorités publiques congolaises, du ministère de l'Intérieur, de la Défense, et les différentes parties prenantes au conflit, y compris des représentants Mabondo. Et à ce moment-là, il avait été fait un petit état des lieux et un des points répond peut-être à votre question, c'est-à-dire qu'il était les communautés locales insistaient sur le fait de la sous-représentation des institutions publiques dans leur région, notamment des services de sécurité. Quand j'entends services de sécurité, c'est en anticipation et en prévention de conflits, non pas pour de la répression. C'est-à-dire qu'il y a, semble-t-il, moi c'est une région que je ne connais pas et qui nous est interdite d'accès, nous journalistes. Moi, sur mon accréditation congolaise, j'ai stipulé très clairement que je n'ai pas le droit de me rendre dans cet endroit-là. Donc c'est compliqué de suivre cette affaire. Après qu'il y ait de la résistance, on connaît les phénomènes de guérilla. Voilà, il y a en face une armée, j'imagine, qui, comme dans l'est du pays, n'est pas surmotivée, c'est le moins qu'on puisse dire, qui peut-être est sous-équipée et qui est en face d'elle des communautés qui connaissent le terrain mieux que personne, qui évoluent dans leur environnement naturel. Donc c'est très difficile de déloger des groupes de cette sorte, surtout si elles ont le sentiment, encore une fois, je ne parle que de sentiment, mais ou en tout cas de leur côté, de défendre une juste cause. Lors de cette médiation, des revendications, des différents points avaient été mis sur la table. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup bougé depuis, je crois même que pas du tout. Alors, est-ce que c'est directement lié aussi à ce qui se passe dans l'est du pays qui déstabilise complètement et les services de sécurité et l'État d'une façon générale, les deux sont peut-être liés. Après, sur ce qu'évoquait votre le précédent intervenant sur les interventions extérieures, ça, je serais bien en peine de commenter, je ne sais pas du tout.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Jimmy des Bonnie M. On se retrouve juste après. Du groupe musical Bonnie M qui a fait parler de lui pendant la décennie 70 et la décennie 80. On revient à côté de cette semaine, les États-Unis réaffirment leur engagement à mettre fin au conflit en RDC. C'est ce qu'a annoncé le conseiller principal du président américain pour l'Afrique à l'issue des échanges avec Félix Tshisekedi hier jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Massad Boulos était accompagné de Karina Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Selon une dépêche de la présidence, les discussions ont également porté sur les perspectives économiques entre les deux pays qui entretiennent une coopération stratégique. Kinshasa a proposé à Washington un accord sur les minéraux. Jean Bosco Mouemeri, vous êtes analyste indépendant de la géopolitique des Grands Lacs africains. Vous êtes membre du comité des crises de la société civile congolaise. Vous avez souhaité nous parler de l'arrivée de la délégation du département d'État américain dans la région pour renforcer les efforts de paix en RDC et promouvoir les investissements du secteur privé dans la région, en vous posant la question de savoir si cela est une aubaine pour la diplomatie congolaise. On vous écoute.
Oui, bon, pour nous, principalement, nous qui sommes lecteurs de problématiques des ressources naturelles dans notre pays, ça fait longtemps qu'il y avait une opinion qui essayait de nous faire accepter que nos ressources naturelles, principalement les ressources minières, étaient une malédiction pour nous. Alors, comment faire, effectivement, parce que il y a eu plus de 10 millions de personnes, on peut discuter des statistiques, mais on en parle. C'est trop, le nombre de personnes qui sont mortes, et quand on remarque que la guerre, c'était d'abord une guerre économique, et que derrière, c'était créer un chaos qui permet n'est-ce pas, au but national de ramasser à vil prix, n'est-ce pas, les ressources minières. Un tel deal, si le Congo cherche une diplomatie de levier en utilisant la coopération, pour obtenir la coopération économique avec les États-Unis pour obtenir la sécurité, pour nous, ça c'est vraiment le meilleur deal. Et bien sûr, dès lors qu'il s'agit d'unir deux peuples à travers cette coopération là-bas, les secteurs privés américains et bien sûr les secteurs privés congolais, bien sûr les gouvernements, les deux gouvernements qui coopéreront par rapport à ce qu'ils ont appelé la coopération stratégique qui permet à ce que les Américains donnent la sécurité, parce qu'ils ne vont pas laisser des capitaux américains circuler là où il y a le bruit des bottes. Donc l'argent n'aime pas les bruits. Et les Congolais vont gagner dans ça. Et bien sûr, tel que j'ai suivi les conseillers de Trump, quand il dit que derrière ça, il y aura des fenêtres ouvertes à la coopération culturelle, à des transferts de connaissances, à des transferts de technologies, à des échanges de savoir-faire. Pour moi, c'est ça le développement social qu'on attendait. Donc si on peut obtenir à travers ces minerais des entreprises qui viennent pour ça, qui respectent le principe directeur de conduite édicté par les Nations Unies, notamment les responsabilités sociales et sociétales, qui les prennent en charge, qui respectent les droits humains. Bon, pour nous, c'est déjà ça.
Et donc, pour vous, ces partenariats économiques que la RDC et les États-Unis envisagent de sceller pourraient être considérés comme étant une panacée par rapport à la crise de l'Est, parce que c'est en fait ça l'objectif.
C'est un salut, parce que d'une pierre, on fait deux coups. D'un côté, les minerais qui nous apportaient malédiction deviennent des minerais pour nous apporter bénédiction, si les accords sont vraiment préalablement bien géré au départ et conclu de manière gagnant-gagnante, je me dis que ce serait mieux que le passé. Donc, ce serait une situation qui est différente de la situation dans laquelle nous avions vécu pendant longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant 80 ans, les Belges prenaient ces minerais, ils ne nous posaient pas de questions. Deuxièmement, après, Mobutu a géré ces minerais, il en a donné. Qui voulait, mais le développement n'est pas venu, la paix n'est pas venue. Maintenant, nous avions vécu la pire atrocité pour un peuple, alors il faut savoir changer de paradigme. Merci. Et donc, si ces minéraux là-bas, maintenant, peuvent, les mêmes minéraux qui ont fait que nous avions subi toute la peine de la vie, que ces mêmes minéraux soient utilisés maintenant pour aider les grandes puissances à venir maintenant, à venir amicalement, les prendre amicalement et nous donner en contrepartie la sécurité, mais de l'autre côté aussi le développement social, tant mieux, ce n'est que ça l'attente du peuple.
Merci Madame Grace Chaco, vous êtes journaliste à la RTGA FM émettant de Kinshasa, vous êtes aussi coordonnatrice de l'ONG Leadership de la Femme des Médias et Conférencière. Minerais contre des garanties sécuritaires, on ne peut pas craindre que le patrimoine minier de la RDC soit bradé, étant donné que ce partenariat est évoqué justement au moment où la RDC se trouve en mauvaise posture sur le plan militaire.
Merci beaucoup, je pense que je vais rejoindre absolument ce que M.
Jean-Bosco Mouameri.
Vous savez, si on n'essaye pas, on ne peut pas commencer à craindre non plus. Ici, on a bien dit qu'on est on est en train de chercher la paix, vraiment pour renforcer les efforts de la paix. Et donc, selon moi, je le dis, que tous les moyens sont bons pour parvenir à la paix. D'abord, c'est une peine. C'est d'accord, c'est une nouvelle parce que d'abord un soutien diplomatique renforcé. Il est très important de revenir sur le fait que la RDC a de plus en plus besoin d'un soutien diplomatique renforcé. Pour quelle raison? Parce que d'abord, il faut mettre et continuer à mettre la pression sur le Rwanda. Et si on a les États-Unis comme alliés pour mettre la pression sur le Rwanda, je pense que c'est déjà un pari gagné. Il y a aussi, les États-Unis aussi pourraient aider au renforcement des mécanismes diplomatiques existants. Parce que il y a le processus de Nairobi, le processus de Luanda. C'est toujours un acquis d'avoir un allié de son côté qui amène les efforts dans le renforcement des mécanismes pour s'ajouter en fait. Et puis vous avez dit tout à l'heure que militairement, nous ne sommes pas encore au top, mais je pense que ce que la RDC est en train de proposer, c'est justement ce soutien au FRDC pour la sécurisation des provinces de l'Est. Donc ici, nous devons continuer à encourager ce processus parce qu'il y aura l'accroissement du soutien au FRDC. Mais j'aimerais aussi revenir sur ce que M. Jean Bosco a dit qui est aussi important. C'est une opportunité. Il faudrait voir une opportunité pour accroître les investissements étrangers. C'est très important qu'on revienne sur le fait que jusque-là, il n'y a qu'un grand partenariat économique avec la Chine, un peu petit peu avec l'Europe, mais si on diversifie tout en restant équilibré, si on diversifie du côté des États-Unis, ça sera aussi toujours à notre avantage, ça sera un encouragement et un soutien aux initiatives locales qui existent déjà. Mais j'aimerais quand même revenir en deux minutes sur le fait que ça peut aussi être, comment je peux appeler ça, un test pour la diplomatie congolaise. Parce qu'il faut que la diplomatie congolaise ici, parce qu'elle veut traiter avec la grande puissance mondiale, qu'elle soit capable d'obtenir des engagements concrets. Que vraiment les autorités congolaises présentent une feuille de route claire pour transformer tous ces soutiens en actions tangibles, que ce ne soit pas simplement des faits d'annonce. Mais aussi, je le disais tout à l'heure, il faudrait prendre en compte ceux qui sont déjà là, ceux qui sont déjà partenaires, entre autres la Chine qui est là depuis plusieurs années, l'Europe aussi. Donc, garder l'équilibre entre les acteurs internationaux. Moi, je ne suis pas partante pour dire, allez, la Chine, elle peut partir et on remplace par les États-Unis. On peut toujours équilibrer. Aussi, comme je le disais tout à l'heure, il faut rester dans une crédibilité des engagements. Ici, il s'agit des États-Unis. Il faut que la RDC, voilà pourquoi j'ai parlé d'un test, il faut que la RDC améliore un peu le côté de la gouvernance, la lutte contre la corruption, pour continuer à attirer des investissements dans ce domaine.
Merci Christophe Châtelot, journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Si ce partenariat est effectivement signé entre les deux pays, sera-t-il facile de le mettre en œuvre quand on sait que les entreprises minières en RDC appartiennent essentiellement aux Chinois, grâce à Chaco l'a rappelé ici. Et on rappelle aussi le contexte international du moment, caractérisé notamment par la guerre économique entre les États-Unis et la Chine.
Oui, faudrait savoir, déjà, enfin, faudrait que les autorités congolaises nous expliquent de quoi on parle exactement. Il a été fait un parallèle entre la situation ukrainienne, l'agression russe et donc le deal en gestation entre l'Ukraine et les États-Unis d'échange de terres rares contre la sécurité. Il ne faut pas oublier que dans ce dossier-là, les États-Unis ont tapé du poing sur la table pour dire les terres rares, c'est pour nous rembourser de ce que l'on a déjà avancé. La sécurité de demain, c'est pas certain. Je ne crois absolument pas que les États-Unis vont s'engager militairement en RDC à une époque où ils sont en total désengagement de tout un tas de terrains et de théâtres militaires, sauf en Asie et vis-à-vis de la Chine. Je ne vois pas comment ils s'investiraient d'une façon déterminante pour, et surtout à court terme. Il y a un problème de temporalité. Les investissements dans le domaine minier, tout le monde le sait, ça prend des années et des années. Là, on est en train de... Il faut gérer une crise immédiate. Le conseiller spécial pour l'Afrique de Donald Trump n'est pas un investisseur. C'est pas lui qui va investir des millions ou des milliards de dollars au Congo. Et dans quelle partie du Congo? Est-ce qu'ils vont reprendre la mine de Rubaya, qui est une mine totalement artisanale? en industrialisant Roubaix, en mettant dehors 15 000 travailleurs qui utilisent leurs bras, leurs pioches et les pelles pour les remplacer par des machines. Comment on évacue après, quelles sont les infrastructures qui permettront d'écouler et dans quelle direction? C'est un phénomène et un schéma très complexe. Quant aux minerais, votre interlocutrice l'évoquait, Grâce l'évoquait, les Chinois ont des contrats en bonne et due forme au Katanga. On ne peut pas leur dire du jour au lendemain, tirez-vous. Ou alors, ce serait envoyer le message à d'éventuels investisseurs américains de leur dire, venez, mais si on change d'avis dans 3 jours, vous partirez comme les Chinois viennent de partir. Tout le monde sait que la RDC est un pays riche, qu'il y a un sous-sol incroyablement riche. S'il n'y a pas plus d'investissement, c'est parce que, grâce à l'évoquer aussi, il y a un sérieux problème de corruption, il y a un problème d'insécurité juridique pour les investisseurs. Il y a en plus un problème d'infrastructure, parce que c'est bien joli de parler d'industrialisation, mais quand il n'y a pas d'énergie électrique pour faire marcher les machines, ça ne peut pas fonctionner. Donc, tant mieux s'il y a un partenariat avec les États-Unis. Je suis pas en train de... ce qu'il y a, c'est que c'est un peu le miroir aux alouettes. Et surtout, même si ça se fait, ce que je souhaite, je ne suis pas là ni pour souhaiter ni pour ne pas le souhaiter d'ailleurs, ça prend énormément de temps. Or là, la crise, elle est immédiate. Et il faut une réponse immédiate à cette crise.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. On va écouter Mont Blanc, cette nouveauté de Junior Fataki en featuring avec Luciana Demingongo. Et on revient juste après.
Blanchi Kiboko le boss, RNF. Tu diras à la déesse de la perfection, Joël Rodriguez, que rendez-vous chez Joroki Light. Cédric Ferrosi, bras droit.
Abenga Kanga printemps, saison de la beauté. Abenga Kanga lissou mugé, fleur de tendresse. Ata tomboki, ata zana joie. Na kajola kaye, na bakala sido pomo balia binanga. Ah,
Tanguy Matundu, Ricky Mayunga El Fuego, Colonel Audrey Mohamed.
Akazananga, attaque un voyage. Nazala ka branché avec son cœur d'amour. Yende Chouananga, Blanchi Kiboko à Joël.
Oscar Chichiko Yajina, Tani Kayembe Yariko.
Blanchi Kiboko Salabo, Lingona Mimi. Ele Kiroméo na Juliette, na Roman. Na Kotika te Kolinga yoko yozali. Mobali oyonzambe aponelanga, motemananga etondi na bolingo, tika na yebisa yo. Blanchi Kiboko,
Lydia Kalala, maman 4A, Yayana Christine et Joël Kalala, Karine Moutali, IML.
Blanchi Kiboko, sala bolingo na mimi. Ele ki Romeo na Juliette na Roman. Na kofi kate koinga yu poyo zali. Mobali oyo zambe aponela nga. Mote mananga, mote ndina bolingo. Tika na yebisa yo. Blanchi Kiboko.
Boss Emmanuel Chigoge, le siège. Méliane Kiboko. Didier Otimo et Atensia, les nœuds Kiboko, c'est pour Alamba. Magloire Kiboko, en 10
stars. Opération kado oyo nzambe apesa na mokili mina kupenda sana bisika nyoso tambolaka batela bolingo yo ya Rodriguez basalaka ndenge nini soki olingi moto nazala proche na motema na yo
Luciana
olinganga nalinga yo tolingana Blanchi kiboko
Nathalie Rodriguez Stéphane.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la persistance de l'insécurité causée par l'activisme des miliciens Mobondo dans la partie ouest de la RDC. Nous avons également analysé l'arrivée de la délégation du département d'État américain dans la région pour renforcer les efforts de paix en RDC et promouvoir les investissements du secteur privé. Participe à cette émission Madame Grace Chaco, elle est journaliste à la RTGA FM émettant de Kinshasa. Elle est aussi coordonnatrice de l'ONG Leadership de la femme et des médias et conférencière. Jean Bosco Mouemeri, analyste indépendant de la géopolitique des Grands Lacs africains. Il est membre du comité de crise de la société civile congolaise. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot. Il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Des délégations du gouvernement congolais et des rebelles du M23 AFC soutenus par le Rwanda vont se retrouver le 9 avril prochain au Qatar, a rapporté mardi 1er avril la télévision française France 24. L'objectif de la rencontre, selon ces médias, est d'entamer des négociations directes entre Kinshasa et la rébellion en vue de trouver une issue à la guerre qui endeuille les populations de l'Est de la RDC et qui a contraint des millions de personnes à l'errance. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés le 18 mars 2025 à Doha à l'initiative de l'émir du Qatar. Au moment où les regards des Congolais étaient tournés vers les négociations directes entre le gouvernement congolais et la M23 prévues le même 18 mars à Luanda sous la médiation du président angolais. Si à Luanda les négociations directes n'ont pas pu avoir lieu après le désistement du M23 de se rendre dans la capitale angolaise, en revanche à Doha, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et ont convenu de poursuivre les discussions entamées à Doha afin de poser les bases d'une paix durable dans le cadre du processus désormais fusionné Luanda-Nairobi selon la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Qatar. Christophe Châtelot, vous avez souhaité nous parler de ces sujets en vous posant la question de savoir si la multiplication des initiatives diplomatiques destinées à rétablir la paix dans l'Est de la RDC annonce-t-elle une sortie de crise prochaine ou ne sont-elles que des manœuvres dilatoires utilisées par les Rwanda? On vous écoute.
Oui, alors je précise un petit peu, c'est moi qui ai posé le problème comme ça. Je dirais que ce sont autant d'initiatives qui peuvent être utilisées par le Rwanda pour gagner du temps, étant entendu que ce n'est pas le Rwanda qui dicte l'agenda diplomatique ni les initiatives des uns et des autres. Non, je me pose beaucoup de questions puisque vous avez à juste titre énuméré toutes les initiatives, tous les rendez-vous et les sommets qu'il y a eu ces derniers temps, et notamment tous ceux qui sont concentrés mi-mars, Harare, Doha, Luanda, qui était un échec, mais peu importe, la réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui ont décidé des sanctions contre un certain nombre de Rwandais. Et j'avoue que j'ai du mal à me retrouver dans tout cet éventail de propositions diplomatiques. Doha est intéressant, d'abord parce que c'était, on voit intervenir un nouvel acteur que l'on n'attendait pas, alors qui a cet avantage d'être audible est considéré comme assez neutre de la part des deux parties prenantes, et à Kinshasa et à Kigali. Donc il y a peut-être une chance, en effet, que leur médiation aboutisse à quelque chose. Mais aboutir à quoi? On a vu à l'issue de cette première rencontre, première réunion, je vais dire, c'est pas un dialogue, c'est une réunion dans la même pièce, des présidents Tshisekedi et Kagame. On voit à la lecture de leurs communiqués finaux qu'ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde et que ces communiqués expriment au contraire la profondeur des fossés qui sépare les deux parties. Le Congo, à juste titre, demande le retrait des militaires rwandais du sol congolais, la cessation immédiate des hostilités, d'arrêter le pillage des ressources naturelles. Par contre, il n'est pas fait du tout allusion au M23, ce qu'en revanche évoquent les Rwandais, ainsi que la neutralisation des FDLR. Bref, il y a là, en fait, la liste des revendications très ancienne des uns et des autres, et autant de sujets de discussion sur lesquels jusqu'à présent ils n'ont pas réussi à se retrouver. Alors, est-ce qu'une nouvelle réunion à Doha permettrait de faire avancer les choses? Moi, j'ai surtout l'impression que, au-delà de l'intermédiation personnelle de l'émir du Qatar qui permet de les réunir avec des si ce n'est des moyens de pression, il y a des leviers financiers notamment assez importants du côté du Qatar, c'est un interlocuteur qu'il faut respecter et qui encore une fois est audible. Mais donc Doha, par rapport au processus fusionné de Luanda et Nairobi, se positionne comment? Quelle est l'articulation? Quel rôle vont jouer les cinq anciens présidents ou premiers ministres africains qui ont été nommés à l'issue du sommet EAC-SADC? Quelle est la feuille de route de ces anciens présidents? Comment est-ce qu'ils vont faire? Tout ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. En revanche, ce qui est très clair, c'est que les deux parties restent toujours aussi éloignées. C'est-à-dire que à l'issue de Doha, on a parlé d'une cessation inconditionnelle et immédiate des hostilités. Tout le monde voit bien que ce n'est pas le cas ces derniers jours à Ouali-Calais, que ce n'est pas le cas à Massissi-Centre également, que le M23 AFC / armée rwandaise continue en tout cas à occuper les hauts plateaux vers Uvira. Donc cet appel à une cessation des hostilités, tout le monde fait semblant de dire oui, oui. Les parties concernées, ne l'appliquent pas. Et ceux qui l'appellent, que ce soit l'EAC ou la SADC, sont dans l'incapacité de faire appliquer les décisions qu'ils prennent à l'issue de leur sommet. Donc cette feuille de route qui a été adoptée à Harare, on ne voit pas trop comment ils pourront la mettre en œuvre. On sait très bien que dans ces cas-là, il faut, si au mieux, les deux parties acceptent qu'il y ait cessation des hostilités, il faut une force d'interposition de la paix. Jusqu'à présent et depuis 30 ans, c'est malheureusement un échec total à chaque fois, que ce soit des forces régionales ou que ce soit des casques bleus de l'ONU. Donc qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau aujourd'hui pour inverser cette dynamique négative et dramatique, puisqu'à chaque fois ce sont les populations locales qui vivent ça sur leur dos, et ce sont des centaines de milliers de personnes déplacées, ce sont des milliers de morts, c'est juste insupportable. Sauf que, encore une fois, le fossé entre Kigali et Kinshasa dépasse les milliers de kilomètres qui les séparent. On a eu au journal Le Monde Olivier Ndoungiré, le ministre des Affaires étrangères, je m'excuse pour la prononciation, rwandais. Ils sont sur une position de déni total. Il y avait l'ambassadeur aussi rwandais en audition en commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française avant-hier. Ils sont sur la ligne. Il n'y a aucun soldat rwandais sur le sol congolais. Les rapports des experts des Nations Unies disent n'importe quoi, c'est pas fiable. On repousse toutes leurs conclusions. Et pour ce qui concerne les ressources naturelles, le coltan notamment. Nous avons des mines de coltan, venues au Rwanda, et vous verrez que c'est de la production locale et pas du tout pillée chez le voisin. Donc, s'ils sont sur cette position-là, je vois pas pourquoi ils s'assiéraient autour d'une table pour parler du retrait de troupes dont ils nient la présence sur le sol. Ils ne pourront pas dire on est pour le cessez-le-feu, alors qu'ils n'ont pas de troupes engagées officiellement, d'après eux, sur le sol congolais. Donc, comment on arrive à rapprocher les deux parties? Et pour conclure, qu'est-ce que à Doha, le 9 avril, se diront le M23 et le gouvernement congolais qui, jusqu'à présent, pour le président Tshisekedi, c'était une ligne rouge absolument infranchissable, que de discuter avec un groupe qui est classé comme dans la catégorie des organisations terroristes et dont les principaux dirigeants sont condamnés à mort. Tout ça me... Encore une fois, je pêche peut-être par pessimisme, mais je vois surtout de l'agitation diplomatique plus que des voix sereines de sortie de crise. Quant au dernier point, les sanctions qui ont été adoptées non seulement par l'Union européenne mais par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, on voit que les Rwandais sont assez peu impressionnés par ça. À titre d'exemple, leur réaction vis-à-vis de la Belgique, alors la Belgique ne sont pas les États-Unis en termes de poids diplomatique et économique, on est d'accord, mais ils ont quand même renvoyé la Belgique à ses chères études en coupant les relations diplomatiques. Donc ils ne sont pas prêts, semble-t-il, à à assouplir leur position. Voilà, donc autant d'initiatives, autant de points d'interrogation qui sont soulevés.
Voilà, autant de questions sans réponse, du moins jusque-là. Madame Grace Chaco, le journal Les Coulisses, qui est publié, n'est-ce pas, depuis l'est du pays, a titré récemment dans l'une de ses éditions, en ces termes, trop d'initiatives tuent l'initiative. Et à votre avis, cette multiplicité d'initiatives ne peut-elle pas être, n'est-ce pas, en défaveur de la RDC?
Ben, écoutez, je pense que M. Christophe est revenu sur la question en long et en large. Il faudrait peut-être simplement ajouter quelques commentaires. Moi, je dirais plutôt que non, c'est une prise de conscience accrue de la gravité de la crise à l'est de la RDC. Vous savez, c'est une guerre de plus de 30 ans. Et je pense que il n'y a pas eu autant de moyens sur le plan diplomatique aujourd'hui pour faire valoir la cause de la RDC. Donc pour moi, ce n'est pas trop d'initiatives. C'est vrai que les initiatives semblent être de trop, parce que justement, comme Christophe a dit tout à l'heure, il y en a beaucoup et on ne ressent pas les retombées sur le terrain. Mais moi, je pense que c'est une avancée dans le sens où la voix de la RDC est entendue. Au Conseil de sécurité, il y en a eu plus de trois, où on parlait que de la situation de la RDC, qui était assez rare dans les années précédentes. Donc moi, je pense que ces initiatives diplomatiques continuent de mettre une pression internationale pressante sur le Rwanda, et nous en avons besoin. Ça montre aussi au peuple congolais qu'il y a une volonté de Kinshasa de pouvoir avancer, parce que Kinshasa était resté ferme pour ne pas négocier avec le Rwanda. Mais si Kinshasa finalement ouvre cette porte, elle donne un signal fort aux Congolais que nous pouvons aller au-delà de ce que nous avions dit avant, de nos principes, pour trouver la paix. C'est d'abord ça qu'il faut voir au-delà de toutes ces initiatives. Mais le risque ici, c'est le Rwanda. Parce que les négociations sont censées être nouvelles. Il y en a autant, on ne va pas revenir sur tout ça. Mais malgré tous ces accords, le M23, il reste actif. C'est ce qui donne l'impression que finalement ces accords, ça n'aboutira à rien. Donc, selon moi, au-delà des négociations diplomatiques, il faut aussi maintenir une pression sur le terrain. Je pense qu'on ne peut pas continuer à attendre que les négociations diplomatiques, les pourparlers, etc., apportent une solution concrète vraie. Il faudrait, pour que nous puissions sortir de cette crise, qu'il y ait aussi cette pression militaire sur, sur le terrain pour qu'on puisse voir.
Merci Jean Bosco Moemery. Ces initiatives qui proviennent de plusieurs pôles pourraient-elles être harmonisées en vue justement d'aboutir au rétablissement de la paix dans la partie orientale de la RDC?
Je pense que, bon, personnellement, d'abord, je suis malheureux qu'ils aient préféré aller trouver des solutions au Qatar que de les trouver à travers les institutions multilatérales de la région. Il y avait SADC, il y avait IAC, il y avait... Donc, là encore, les Africains, on a montré notre incapacité à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons dans notre parcours. Mais bon, que cela ne tienne, parce qu'on sait que le président rwandais a besoin du temps. Il, dans sa posture classique de chercher des prolongations pour trouver des surenchères, je crains même que cette fusion du processus de Nairobi avec le processus de Luanda ne viennent encore nous ramener en arrière en fusionnant aussi l'agenda du Rwanda avec l'agenda du M23. Ah, parce que, avec,
est-ce qu'on ne tend pas vers ça?
Bon, je crains.
Parce que à Doha, et on a même l'impression que Doha est en train de prendre les dessus sur les processus fusionnés Luanda et Nairobi. À Doha, on implique tout le monde, hein, les chefs d'État et puis les rebelles.
Bon, je ne voudrais pas faire de la prophétie, Je crains seulement parce que la fusion de ces deux processus nous ramène encore dans l'imbroglio. Hein, on ne sait plus quelles sont les questions internes à traiter. Est-ce que la question des FDLR est une question pouvant venir sur la note de M23 ou c'est du Rwanda? La question des réfugiés à expression rwandaise, hein, qui sont au Rwanda, en Ouganda et ailleurs, est-ce que ça c'est une question qui doit être traitée avec les M23 ou bien c'est une question tripartite entre les pays d'accueil, les pays d'origine des réfugiés et puis l'EACR. Voilà, autant de choses, mais à mon avis, c'est au gouvernement congolais de monter en puissance la dynamique de l'Union FARDC Ouazalendo pour que ce qui s'est passé à Walikale se passe encore ailleurs et qu'on continue à faire pression, n'est-ce pas, sur les front, de manière à ce que eux aussi comprennent qu'ils n'ont pas le temps. Et ça va permettre à ce que finalement tout le monde négocie. Parce que s'ils pensent que ils peuvent maintenir la distraction jusqu'à ce qu'ils soient encore plus forts pour percer, arriver avec Sangani, ben ils vont le faire, ils n'ont pas de choix. Mais s'ils savent, s'ils trouvent que le phare d'essai on finit par harmoniser avec les Ouazalendo et que sur le front il y a morale, il y a munitions, il y a, et ils peuvent foncer et prendre, ça peut changer la carte et la posture de Kigali peut changer.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Sauver l'Anmou des Zouk Machine, on se retrouve juste après.
Thank you.
c'était Sauvé l'amour des Zouk Machines. Je rappelle que nous avons dans cette émission, grâce à Madame Grace Chaco, elle est journaliste à la RTGA FM, mettant de Kinshasa. Elle est aussi coordonnatrice de l'ONG Leadership de la Femme, des médias et conférencière. Jean Bosco Mouemeri, analyste indépendant de la géopolitique des Grands Lacs africains. Il est membre du comité de crise de la société civile congolaise. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Plusieurs figures de l'opposition ont rencontré le conseiller spécial Berande Kolongele. Mercredi, Moni Dela Idi a invité d'autres opposants à œuvrer pour la nation en participant aux consultations. Et notre groupe, composé d'une vingtaine de jeunes, se présentant comme la jeunesse du FCC, a également pris part aux discussions. Selon eux, leur motivation est la passion pour le Congo et leur priorité est de récupérer les terres conquises par le Rwanda. Cependant, une cadre du FCC a rappelé via les réseaux sociaux que ces jeunes n'appartiennent pas à leur plateforme politique. La personne à leur tête avait déjà été éjectée du FCC depuis 2024, précise-t-elle. Le FCC fait partie de la frange de l'opposition hostile aux consultations politiques initiées par Félix Tshisekedi pour former un gouvernement d'union nationale afin de sortir de la crise sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Madame Grace Chaco, vous avez souhaité nous parler de ces sujets en vous demandant si le gouvernement d'union nationale, la RDC, est une solution pour la stabilité sécuritaire ou un énième partage du pouvoir. On vous écoute.
Alors voilà, cher Guy, je pense que tout le monde suit l'actualité. Vous avez très bien retracé cela, mais il y a lieu de se poser des questions encore autour de ces consultations politiques qui, selon moi, gardent le même format que les précédentes consultations politiques en vue de la formation du gouvernement. Ici, l'objectif majeur qui nous avait été présenté, c'était justement d'avoir un gouvernement d'unité nationale pour d'abord régler la crise sécuritaire à l'est du pays. Alors le format, je ne sais pas si c'est simplement parce qu'aujourd'hui, c'est le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité qui mène ces consultations, différemment aux précédentes consultations. Mais moi, je trouve que c'est le même format. On consulte la société civile, les forces vives, les regroupements politiques en vue d'un gouvernement d'unité nationale. Et donc, je me pose des questions en me disant, si on garde le même format, comment on va arriver finalement à avoir les résultats différents? Dès l'entame, l'opposition et les têtes majeures de l'opposition n'ont pas voulu venir aux consultations. Le premier à donner le temps, c'était de Lucé Sangha du parti en vol. Il a refusé les consultations. Ensuite, on a vu d'autres de l'opposition venir. On va dire un peu la grande figure de l'opposition républicaine que vous n'avez pas cité, c'est Monsieur Constant Mutamba, qui est ministre de la Justice, qui a été consulté dernièrement. Mais au sortir de ces consultations, il a dit quelque chose qui m'a frappé en disant que, voilà, je paraphrase, il ne pense pas qu'il faut créer un gouvernement d'unité nationale, il faut plutôt la continuité. La première ministre pourrait rester là parce qu'il ne voudrait pas qu'on passe sur un partage de pouvoir. Ma question reste et demeure, est-ce que l'objectif de ces consultations en vue d'un prochain gouvernement est réellement la sécurité du pays? Parce que, en mon humble avis, aller dans l'urgence en termes de ces consultations. Finalement, il fallait déjà que dans le format même des consultations, que ça soit différent. Je me pose vraiment des questions et je me dis, est-ce que vraiment les enjeux politiques sécuritaires en RDC sont celles qui motivent ces consultations? Cette approche, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir justement aller, je veux le dire, essayer de baisser ce ou bien de calmer les tensions électorales qui restent encore palpables? Est-ce que ce n'est pas ça finalement, on se dit à certains qui étaient fâchés à la suite des élections électorales, qu'on puisse finalement les intégrer dans le gouvernement? Ce sont des questions qu'on continue de se poser. Est-ce que finalement ce gouvernement qui veut être de cohésion nationale contre de l'inclusivité pour tout le monde, c'est est-ce que les acteurs politiques et sociaux sont tous consultés? Est-ce que tous vont venir, ceux de la société civile, l'opposition, comme je le disais tout à l'heure, la grande majorité de l'opposition ne veut pas participer. Vous avez cité tout à l'heure le FCC. Alors, il y a beaucoup de risques, finalement, autour de cette consultation. Il y a des risques qui effraie un peu. Le gouvernement d'Union nationale, il peut vraiment, vraiment améliorer la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo en ce moment précis, si nous allons tout en format de consultation politique. Est-ce qu'il y a des risques que cette initiative se transforme finalement, comme je disais tout à l'heure, en un partage du pouvoir entre élites politiques?
Voilà. Merci Christophe Châtelot. Quel est votre regard au sujet de cette démarche qui consiste à consulter toutes les forces vives de la nation en vue de mettre en place un gouvernement à l'union nationale avec comme objectif primordial créer la cohésion nationale et comme objectif ultime arriver à faire face, n'est-ce pas, à la situation ou à la crise de l'est du pays?
Je pense que la démarche est louable et respectable sur le plan théorique, j'allais dire. Dans la pratique, je ne suis pas sûr que politiquement, les différentes parties prenantes, je ne suis pas un grand spécialiste du paysage politique politique congolais. Ce que je vois néanmoins, c'est que ceux qui étaient les principaux adversaires, les principales forces qui étaient en jeu au moment de la dernière présidentielle ou des législatives ne sont plus là pour ce qui est des principaux leaders, que le président est tout de même affaibli par ce qui se passe à l'Est, provenant de ce projet de réforme constitutionnelle dont on n'entend plus parler. Alors peut-être qu'il va ressortir et qu'il va réapparaître très bientôt, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe à l'Est l'a considérablement affaibli. Est-ce que ses adversaires politiques, puisqu'on est dans un combat politique, même s'il est noble, est-ce qu'ils voudront lui tendre la main pour le sauver et qu'il tire bénéfice de tout cela, d'être le grand rassembleur qui sort le pays vers le haut? Encore une fois, ce serait très, très louable. Je suis pas sûr que ce soit les règles qui sont en cours dans la vie politique. Donc, si les différents partis répondront à cette proposition, je suis assez sceptique. Et puis, il y a loin encore du projet à sa réalisation. Et on a vu le temps qu'il avait fallu pour constituer un gouvernement avec un groupement et une majorité au Parlement. Si là on rentre dans le jeu des chaises musicales et de la chasse au portefeuille en cas d'union nationale, ça promet d'être, si ce n'est sanglant, particulièrement raide. Donc, encore une fois, la proposition est respectable. Maintenant, son avenir, je suis assez pessimiste.
Merci Jean Bosco Mouemeri. Nous allons terminer cette émission avec vous. Et si on arrivait justement à mettre en place ces gouvernements d'union nationale, et à votre avis, quels pourraient être les atouts ou les marges de manœuvre de ces gouvernements afin de changer la donne sur le terrain des opérations dans l'Est de la RDC?
Bon, d'abord, sur le plan technique, je pensais, quand j'ai entendu la consultation pour chercher la cohésion nationale, je me disais, toute la démarche, ce sera pour faire sauter les clivages traditionnels et essayer d'amener tout le monde autour du problème central qui était notre survie sécuritaire pour l'État congolais. Alors, aujourd'hui, je ne vois pas des signaux qui montrent que vraiment on a aborder le problème tel qu'il doit être abordé, parce que déjà je pensais que c'est le principe à la guerre comme à la guerre, c'est-à-dire ne peuvent prendre place dans la jupe de commandement que ceux qui vont au front et qui en ont les capacités, les qualités, et qui savent ce qu'ils vont faire au combat. Mais aussi c'était diminuer les trains de vie des institutions pour épargner suffisamment des moyens et savoir les loger à temps utile, là où il faut les loger dans la sécurité. Bon, qu'est-ce que le gouvernement qui sortira de ces discussions d'aujourd'hui pourrait faire réellement? Quelle serait leur marge de manœuvre? Bon, je crois que s'ils arrivent à mettre en place un gouvernement qui peut d'abord résoudre la question de mettre l'argent de côté pour financer l'armée, ce serait déjà un premier pas. Et à ces moments, on saura que maintenant, on joue les jeux de sauver la patrie. Et l'armée, à ces moments, avec ses supplétifs, donc les Ouazalendo, on devrait voir comment ils sont pris en charge sur le plan de ravitaillement militaire, sur le plan d'équipement, sur le plan d'uniforme, sur le plan des rations, à la fois au front pendant qu'ils sont là-bas, mais aussi derrière par rapport à leur famille. Ça, ce serait la priorité des priorités. Parce que si on passe par cette démarche, on aura au moins la garantie de faire pression aux autres dans une démarche, la guerre pour chercher la paix. Parce qu'on nous impose la guerre. Mais nous, nous étions dans la démarche de diplomatie pour la paix. Ça n'a pas fonctionné.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Grace Chaco, Monsieur Christophe Châtelot et Monsieur Jean Bosco Mouemeri. Merci aussi à Dieudonné Nyangassa, qui est à la technique avec la participation de Christian Lomombe, DJ Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Mibali Bossala Attention, cette composition de Josti Kiambukuta contenue dans l'album Chandra, sorti en 1989 dans l'orchestre Ok Jazz. On se retrouve le samedi prochain.
Y con mi Diga canta valioso por lo